Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 13 novembre. Bonjour Marine.
Bonjour Manu, bonjour Vincent, bonjour à
bonjour.
Tous.
Et bonjour Manu. Donc effectivement, il y a une équipe au complet cette fois-ci avec un sommaire au complet également. Marine, de quoi vas-tu parler ?
Alors je vais commencer par La Vénus à la fourrure, le nouveau film de Roman Polanski qu'on a vu en avant-première au Cinémed. Et je parlerai également de Blood Ties de Guillaume Canet.
Qui est sorti il y a 15 jours, hein, il me semble, non ?
Oui.
Une semaine.
Oui,
voilà.
Une semaine, oui. Toi Manu ?
Je vais vous parler du dernier film des frères Cohen, Inside Llewyn Davis.
Et puis il y aura deux interviews que j'ai préparées, une de Emmanuel Seignier qui était présent au Cinémed, grand moment hein, qu'on
un
a vécu avec toi Marine, on écoutera un extrait. Et puis on écoutera aussi Luc Jacquet pour un documentaire, Il était une forêt. Luc Jacquet c'est celui qui avait fait la dernière marche de... Non. Oui,
la marche de l'empereur,
tout simplement, pas la dernière.
Non, pas la dernière marche de l'empereur.
Oui, voilà, c'est Cinérama qui débute.
Cinérama sur Divergence FM.
Et on commence donc tout de suite avec La Vénus à la fourrure. Thomas, un metteur en scène de théâtre interprété par Mathieu Amalric, termine une décevante journée d'audition dans son théâtre parisien, n'ayant toujours pas trouvé celle qui pourrait interpréter sa version de La Vénus à la fourrure, pilier de la littérature sadomasochiste. Entre une mystérieuse femme, Vanda, qui le persuade de l'auditionner et se révèle étrangement douée malgré sa personnalité fantasque. Fasciné, le metteur en scène entre alors dans un jeu de théâtre et de manipulation où la distribution des rôles ne semble pas si évidente. Alors tout le style polanskien se ressent autant ici dans la forme que dans les détails, parfois de façon tellement évidente que le film tourne à l'autocitation. Il semble, après la parenthèse très américaine de Carnage, revenir volontairement aux sources de ses inspirations et renouer avec l'esprit de ses premiers films. On retrouvera ainsi de nombreux éléments qui rappellent le début de sa filmographie, disséminés ça et là pour rappeler Le couteau dans l'eau, Le bal des vampires ou encore Rosemary's Baby, une façon de prouver qu'il n'a pas oublié son style sans pour autant se complaire dans la référence. L'épure de la mise en scène participe également de ce retour aux bases, un décor unique mais néanmoins malléable, et c'est ce qui va démontrer tout le talent de Polanski au cours du film, la confrontation de deux comédiens et une trame simple mais qui se complexifie ensuite l'air de rien. Polanski dirige pour la quatrième fois ici sa femme Emmanuelle Seignier, qu'il est d'ailleurs pratiquement le seul à faire tourner, on comprend assez vite pourquoi, dans un huis clos tel qu'il sait les réaliser. Si la première demi-heure agace et semble tourner en rond, on se retrouve vite captif et captivé lorsque le rythme s'emballe. Le cinéaste prouve avec brio sa maîtrise de la scénographie, tout en laissant souvent oublier sa caméra au profit du duel des personnages. Le scénario est également un vrai délice d'intelligence autour des rapports de domination homme-femme et artiste-muse qui laisse bien évidemment transparaître une mise en abîme plus ou moins volontaire. Le rapport sadomasochiste également est bien amené et aurait même mérité sans doute d'être développé et poussé un peu plus loin. Ici, le parallèle avec Lune de Fiel est flagrant, mais il est également un peu douloureux pour la comédienne, puisqu'elle possédait en effet, dans ce qui fut l'un de ses premiers rôles pour Polanski, une grâce juvénile qui servait son personnage à double tranchant. Ici, Emmanuelle Seignier rejoue avec beaucoup moins de nuances ce rôle bifide, sans plus posséder cette fraîcheur qui la rendait ambiguë. Elle est empêtrée dans une composition outrée de jeune femme écervelée à laquelle on ne croit pas une minute, hein, clairement. Elle ne rend que plus évident le fait que le rôle a été initialement écrit, d'ailleurs pour une comédienne âgée de 20 ans de moins qu'elle. Difficile du coup pour Mathieu Amalric en face de sauver un duo de comédiens aussi bancal. Mathieu Amalric qui, tout en restant très bon, fait quand même du Mathieu Amalric, il faut le dire. Un film donc qui prouve encore la vigueur et l'inspiration de Polanski, l'inspiration sauf en matière de casting, clairement.
Donc, on va écouter maintenant Emmanuelle Seignier qui n'avait pas grand-chose à dire.
Mais je crois qu'elle n'a pas du tout compris le film qu'elle a fait en fait.
Je crois qu'elle n'a rien compris.
C'est Polanski qui l'a fait en même temps.
C'est Polanski, mais elle disait « on » hein, par moment.
Hein,
Donc voilà, on l'écoute et on en parle après.
trop tard. Avec Roman Polanski, on cherchait à faire un film ensemble et on cherchait un sujet où il y a un bon rôle pour moi et en même temps que ce soit un film qui soit pour lui aussi, quoi. Et c'est pas si facile que ça à trouver. Et il a lu cette pièce, et son agent américain qui lui a envoyé la pièce à Cannes, il y a pas ce Cannes-là, l'autre d'avant. Et il a eu un coup de cœur sur la pièce, il trouvait que c'était vraiment très polanskien. Et il trouvait qu'il y avait un super rôle pour moi, et voilà, on l'a fait assez vite en fait, puisqu'on l'a tourné en décembre. Et ce qui était vraiment incroyable pour nous tous, c'était que c'était comme un film de jeunesse. Il y avait quelque chose de l'ordre, avec l'urgence, tout ça, il y avait quelque chose d'un film de jeunesse. Et en plus, parfois, l'argent, le temps, ça enlève de la créativité. Et du coup, le fait qu'on soit comme ça dans un temps limité et une équipe assez réduite, il y avait quelque chose de l'ordre d'un premier film, quoi. Et ça, c'était vraiment incroyable.
Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un film pour Roman et un film pour vous, un rôle pour vous. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend, un rôle pour vous ?
Un bon rôle, quoi. Un rôle où j'ai quelque chose à faire. C'est ça que ça sous-entend. Parce qu'il y a beaucoup de rôles où on n'a pas grand-chose à faire, quoi. Et là,
précisément, c'est un huis clos, donc vous, c'est quasiment tout le film.
C'est un huis clos. Surtout, j'ai beaucoup à jouer. J'ai un rôle où je peux faire plein de personnages, où je peux m'amuser, où je peux faire de la comédie, où je peux faire du suspense, où je peux faire la femme fatale, où je peux faire la gourde, où je peux faire plein de choses. Et donc, c'est un bon rôle pour une actrice.
Si c'est pour la Vénus à la fourrure, ils sont tous partis il y a une demi-heure. Nous allons programmer d'autres auditions, sous peu.
Hein? Oui, mais je suis là, ça m'évitera de revenir demain. J'ai même un costume. Laissez-moi juste vous montrer comment elle me va, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez.
Oui.
Merci.
Non, non. Quand vous voulez, hein.
Vous trouvez pas que c'est sexiste ?
C'est un film sur qu'est-ce qu'on peut faire aussi au théâtre, hein, parce que et ce qu'on peut faire au théâtre, comment ça s'oppose à la modernité ? Parce que ce que propose Amalric, à chaque fois, il a l'impression que l'actrice ne le comprend pas. Elle s'exprime d'une manière moderne, ils n'ont pas du tout le même vocabulaire.
Ouais, ouais.
Et lui, il est tout le temps là, à la ramasse, en train de se dire, mais finalement, est-ce que c'est un beau texte ? Est-ce qu'on a encore raison de le montrer, ce texte ?
Mais c'est ça qui est bien dans le film, c'est qu'en fait, elle lui prouve que sa pièce, elle est naze, quoi. Par A plus B, elle lui dit, mais cette pièce, elle est horrible, c'est une insulte faite aux femmes, c'est de la pornographie, et donc elle le brise en fait en 18, mais tout le temps elle se moque de lui, quoi, tout le temps, tout au long du truc, même quand elle fait la pièce, elle le fait bien, mais il y a un petit truc où on voit que bon, elle en a rien à foutre de sa pièce, quoi, que sa pièce, elle est complètement naze.
Et le Tout-Puissant le frappa et le livra aux mains d'une femme.
Je ne fais que citer le roman de Sacha Masoch.
Ce qu'on voulait, c'est que le personnage du début soit extrêmement un peu grotesque, c'est-à-dire très très vulgaire, tout est extrême, et que pour qu'il y ait une vraie différence avec quand elle joue la pièce, et puis que petit à petit ça se mélange pour faire un troisième personnage qui a encore un autre truc, mais que ça soit subtil, quoi, que ça soit pas genre que ça se voit trop.
C'est ça que
quoi.
Je veux le revoir.
Ouais. Et on a le même choc que lui quand vous commencez
à faire le personnage.
Faire le personnage, ouais. Vous êtes complètement. C'est le théâtre.
Ouais. Bah, oui, c'est un film aussi sur la création.
C'est la création.
Comment on crée des personnages, comment tout d'un coup un acteur.
On le joue,
oui.
On peut le supporter. Vous voilà. À un moment donné, vous partez, vous dites, faut pas le faire.
C'est trop dur, quoi. Donc c'est un film qui est à la base une comédie qu'on peut prendre comme une grosse blague aussi, mais en même temps ça parle de plein de choses importantes.
On a du mal à prendre une grosse blague.
Moi quand je l'ai vu la première fois, j'ai trouvé que c'était comme une grosse blague, quoi. Il y avait un côté très très drôle comme
le
ça.
Le début, mais après justement il y a cette.
Et après ça parle de plein de choses sur l'art, la création, les rapports entre les hommes, les femmes. Oui. Le féminisme, plein de choses qui sont
vraiment... Le masochisme, le SM.
Leurs cœurs sont menottés l'un à l'autre.
Menottés dans la perversion.
Non, menottés dans la passion.
Sa passion à lui.
C'est chimique, c'est la rencontre de deux personnes qui met le feu aux poudres.
Mais tout ça, c'est lutte des sexes et lutte des classes. Vanda est quelqu'un d'adorable, d'innocent, qui tombe par hasard sur un gros pervers.
Non, mais vous comprenez pas, vous comprenez rien.
Parce que souvent, les acteurs français, ils essayent de faire les acteurs américains.
Ils
essayent toujours de faire un peu comme ils font, style, ils sont américains. Vous voyez ce que je veux dire ?
Non.
Bah, tant pis pour vous.
De vous pâtiser.
Oui, de jouer un peu à l'américaine, de faire un peu style américain, quoi. Acteur studio, un peu américain. Et lui, il a une identité française. C'est un truc positif que je dis. Hein.
Comment vous pouvez jouer aussi bien Vanda et être conne à son sujet à ce point ? Au sujet du reste.
Mais comme c'est un tellement rôle génial que c'est vrai que ça porte. Hein.
Putain de comédienne à la con.
Oui, mais ça, on s'en moque un peu du SM. Parce que c'est vrai que le SM, oui, c'est complètement ridicule, quoi. Oui, franchement, ça a existé, mais c'est, franchement, non, mais c'est quand même très ridicule, quoi. Non, mais tous les trucs, tous les trucs de fouettage et de trucs comme ça, oui, mais c'est bien. Vraiment ridicule.
Connasse.
Voilà, on s'est un peu amusé avec Emmanuel Seigné, mais tout est vrai. Voilà, c'est un montage, mais tout est vrai. Hein. C'était compliqué.
C'est délicieux, vraiment, de réentendre tout ça.
En tout cas, elle joue bien. Hein, elle joue bien, c'est une expression. Elle joue effectivement dans le film de Roman Polanski, son mari, qui sort aujourd'hui sur les écrans et qui est à peu près dans tous les cinémas.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
Bon, je vais vous parler d'un film américain avec des vrais acteurs américains.
Là, qui joue à l'américaine.
Qui joue à l'américaine. Donc, acclamé là par une critique unanime, hein, révélant un consensus que je trouve aussi étrange qu'inattendu, le nouveau film des frères Coen, Inside Llewyn Davis, n'est pas, à mon avis, un film facile et une vision un peu superficielle risque de décevoir les spectateurs en attente d'un nouveau chef-d'œuvre de la part des auteurs de Fargo. Or, Inside se situe dans la veine intimiste et personnelle de Serious Man, autre beau portrait de loser qui en a laissé quand même plus d'un sur le côté.
Il a fallu que tu l'ouvres ta grande gueule, hein, petit rigolo.
Excusez-moi, vous êtes qui ?
If I had wings, like Noah's dove, I'd fly the river.
Si la musique ne marche pas.
Quoi ? Arrêtez ? Juste, exister ?
Qu'est-ce que tu joues déjà ?
De la folk.
De la folk ? Je croyais que tu te disais musicien.
J'ai besoin d'argent.
Quoi encore ? T'es jamais préoccupé par l'avenir ?
Tu veux dire partir vivre en banlieue, avoir des gosses ?
Et c'est mal.
Si c'est que ça la musique pour toi, un moyen d'en arriver là, alors oui, c'est un petit peu carriériste. C'est même un petit peu ringard. Et un petit peu triste.
Un chanteur folk avec un chat, ça fait partie de ton spectacle. À chaque fois que tu balances un do majeur, il gerbe une boule de poil.
I remember one evening in the pouring rain, and in my heart was an aching pain.
Mel, j'ai pas eu d'avance sur mon disque solo. Il doit y avoir des droits d'auteur. Mel. Mel !
Comment tu vas, petit ?
Dans le jazz, tu sais, on joue toutes les notes, les 12 notes de la gamme, pas 3 accords sur un ukulélé. Enfin, si tu gagnes ta vie comme ça, tant mieux pour toi.
Fare thee well, my honey, fare thee well.
Les Coen ont toujours revisité les genres avec une aisance et une malice peu courantes dans le paysage du cinéma américain. Mais là, plutôt que de réaliser un biopic, hein, un genre très à la mode aujourd'hui, ils ont créé de toutes pièces un personnage fictif, un songwriter anonyme et talentueux, comme il a dû en exister un certain nombre au début des années 60. Un personnage plus complexe qu'il ne laisse paraître au premier abord. Davis est un folkeux désabusé et mélancolique qui foire à peu près tout ce qu'il entreprend. Ce troubadour égoïste et immature se réveille tous les matins dans un nouveau lit, sans savoir de quoi le lendemain sera fait. Mais il n'y a rien de romantique dans cette errance forcée qui prend la forme d'un éternel retour. Les événements se suivent et se ressemblent, la routine colle à la peau de ce perdant magnifique. Chaque jour est une épreuve pour lui pour gagner sa vie en passant dans des clubs où les gens semblent indifférents à sa musique, pourtant très très belle. Il traîne son mal-être avec une espèce de distance qui le rend à la fois attachant et agaçant. Mais dès qu'il prend sa guitare et commence à égrener ses magnifiques ballades, le film devient poignant. D'autant que les Coen, là, ont la bonne idée de laisser filer les morceaux dans leur intégralité. Chose assez rare dans le cinéma et notamment dans les films musicaux. Hein. Il y a d'ailleurs quelque chose de cruel dans l'échec perpétuel de cet être talentueux qui déploie ses refrains cotonneux avec une grâce infinie. Les mélodies sont vraiment sublimes, le chant parfait. Et à la fin, lorsque Dylan arrive avec sa voix de canard et son jeu brut, une forme d'injustice transparaît. C'est lui qui récoltera tous les honneurs et deviendra l'icône absolue de la folk music, tandis que tous les Davis retourneront dans l'ombre. En même temps, les Cohen émettent l'idée que ces gens talentueux ont ouvert une brèche, ont permis à des gens comme Dylan d'avoir un succès enfin mérité. Alors, Inside Llewyn Davis confirme, on va dire, une certaine maturité des cinéastes. Bon, c'est un peu bête de dire ça, parce que ça fait au bout de leur 17e film. Ouais. Mais il y a un certain changement dans leur manière d'appréhender le cinéma. Hein. La virtuosité apparente de leur style du début laisse place, depuis quelques films, à une mise en scène de plus en plus épurée, marquée par une simplicité qui, à mon avis, n'a vraiment rien à voir avec de l'académisme. C'est la photographie du français, d'ailleurs Bruno Delbonnel, tout en teintes grisâtres et hivernales, est vraiment splendide. Elle nous immerge dans un monde froid et sans pitié, loin des clichés véhiculés par d'autres films sur la Beat Generation, parce que le film est un peu ancré dans cet univers, dans cet univers-là, en fait. Donc Inside, Llewyn Davis est un peu une complainte sur l'absurdité de l'existence, trouée par des moments burlesques d'une grande finesse, marque de fabrique des auteurs qui, sans perdre leur ironie légendaire, ont néanmoins gagné en profondeur. Ils livrent un cinéma, on va dire, moins facile, moins ouvertement ludique et formaliste, voire parfois hermétique, mais qui laisse une empreinte indélébile, comme les grands morceaux folk qui traversent le temps. Bah, on sort de la salle, au départ, je dirais, légèrement déçu, sur le coup, mais on est gagné un peu par la nonchalance du héros. Je sais pas, c'est un film qui met une sorte de spleen, et on y repense quand même longtemps après. Et j'ajoute, les comédiens sont tous formidables. Et j'ai un contre-emploi, Justin Timberlake, que je n'avais pas reconnu, avec sa barbe en folk, c'est assez étonnant. Et l'actrice Cathy Mulligan, pour une fois...
Carré Mulligan.
Oui, c'est pas Carré. Elle est assez étonnante, en brune. Elle a un jeu très dur, assez violent, qui contraste, enfin, qui change de ses autres performances, où elle a toujours joué des blondes un peu transparentes.
Eh bien, donc, le dernier Cohen est projeté au cinéma Diagonal. On passe au...
Multiplex aussi.
Multiplex aussi. Et donc, on passe au dernier canet.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Moi, maintenant, je vais vous parler d'un film français avec de vrais acteurs américains dedans.
Ah, ça se complique.
On aura
ça
vraiment tout fait, là, c'est compliqué. Blood Ties est un remake un peu particulier, puisqu'il a été réalisé par le comédien principal de la version originale, Guillaume Canet, qui passe donc de devant à derrière la caméra. Histoire de s'affranchir au maximum de toute ressemblance entre les deux films, il transpose l'action aux États-Unis, à New York, tout en conservant le contexte des années 70, qui était déjà celui des liens du sang, la première version réalisée par Jacques Maillot en 2008. Ici, même histoire autour de deux frères que tout oppose. L'aîné, Chris, interprété par Clive Owen, sort de prison et retrouve son père, pour qui il est et demeure le fils prodigue, mais aussi son jeune frère, ici joué par Bill Crudup. J'ai jamais su dire son nom, lui.
Aidez-moi, bon, on veut le dire comme plaît. Ça, alors.
Crudup, un officier de police. Évidemment, les retrouvailles familiales ne tarderont pas à dégénérer lorsque Chris va à nouveau lier sa nouvelle vie au crime.
Je regrette de ne pas être venu te voir quand t'étais en prison. Je suis désolé. Je me suis dit que c'était pas la peine que tout le monde sache que ton frère était flic.
Ah, c'est pour ça que t'es pas venu. Pas une seule visite. Je suis resté 9 ans en tôle. Tu te fous de ma gueule?
Tu sors de tôle et tu m'appelles pas?
Dis-toi, Chris, t'en es où? T'as des projets?
Faire plaisir au juge, pas le choix. Ça me fait vraiment chier de nettoyer les chiottes et de faire le larbin. Ça me fait vraiment chier que tu sois obligé de bosser dans ce garage pourri.
Toi qui voulais changer de vie, ne fais pas marrer, tu changeras jamais, t'es qu'une pourriture.
En ce moment, il prépare un coup. Il cherche un mec sur qui on peut compter. Je te les présente.
La première fois que j'ai été le voir en prison, je me souviens, il m'a vachement déçu. Faut dire que je l'adorais en ce temps-là. Chris était mon héros.
La reconstitution d'époque est très réussie, les personnages, ne semblent jamais déguisés et les décors ont une patine que l'on jurerait véritable, tout agrémenté par des filtres, évidemment vintage. Si la photographie est séduisante, un constat s'impose néanmoins rapidement, la mise en scène, peu soutenue par un découpage mal pensé, s'avère vite brouillonne et peine à trouver un rythme efficace de film noir. Dommage également que le reste du casting ne soit pas à l'avenant face à un Clive Owen excellent. Les seconds rôles manquent singulièrement de gueule, hormis le tenancier du bordel qui est un rital hermaphrodite extrêmement charismatique. Et la distribution 4 étoiles qui accompagne le film est soit mal choisie, soit très sous-exploitée. Marion Cotillard en tapin italien est transparente et pas crédible. Alors elle fait l'effort de parler anglais avec un accent Little Italy, mais sans réussir à le tenir d'une scène à l'autre, ce qui est un peu gênant. Myla Kunis est devenue extrêmement ingrate depuis Black Swan, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et Zoe Saldana semble n'avoir strictement aucune alchimie avec celui qui est quand même supposé être l'amour de sa vie dans le film. Mathias Schoenaerts, pour finir, est malheureusement cantonné à un énième rôle de truand au look de beauf. La plus grosse erreur provient du choix de Billy Crudup, que l'on n'avait pas vu jouer depuis longtemps. Son dernier rôle marquant ayant été dans Presque célèbre, ce qui résume d'ailleurs assez bien sa carrière. Il ne possède ni la moindre intensité dramatique, ni la moindre épaisseur. Et il paraît d'ailleurs vraiment peu crédible en flic intègre face à Clive Owen. Malheureusement, le contraste est assez violent. Conclusion, c'est un semi-échec pour cette première incursion de Canet dans le cinéma américain. Il déplore d'ailleurs d'avoir dû s'adapter aux méthodes de tournage hollywoodiennes, comprenez devenir l'esclave des producteurs et ne voir les acteurs que sur le plateau. En même temps, je trouve ça un peu facile parce que tous ces réalisateurs sont quand même bien contents qu'on leur mette un budget faramineux entre les mains et la perspective d'une carrière américaine. Et après, ils viennent chouiner sur le manque de liberté artistique.
Oui, puis le producteur, c'est quand même James Gray, qui est aussi scénariste du film. Donc je pense qu'il a eu une certaine liberté.
Oui, mais il a mis quand même Billy Crudup.
Et puis, il aurait. Alors, en fait, à la base, ça devait être Mark Wahlberg. Et qui n'a pas pu parce qu'en fait il avait tourné dans un film qui était très proche justement
Game.
Non, mais en fait il voulait pas faire de films trop proches, donc il s'est finalement retiré du projet, et ce qui fait qu'ils ont perdu beaucoup d'argent parce que tout était sur son nom. Ouais. Bon, on peut comprendre, moi qui n'aime pas Mark Wahlberg, j'aurais préféré encore que ce soit lui, je pense qu'il aurait eu un peu plus d'épaisseur. Enfin bon, et puis Guillaume Canet, s'il était pas content, il aurait pu faire son film, il aurait pu faire une version anglaise. Pourquoi pas, ça aurait aussi fonctionné, je pense, de transposer l'action en Angleterre dans les années 70. Ça aurait été tout aussi efficace s'il avait voulu être affranchi de ses problèmes de production hollywoodienne. Enfin, bref, voilà, du coup, j'ai complètement perdu le fil. Et la participation, justement, de James Gray au scénario, et à mon avis, purement symbolique. À la base, Guillaume Canet ne se sentait pas, en fait, d'écrire le scénario en anglais. Et c'est pourquoi, officiellement, il aurait demandé à James Gray de venir lui prêter main forte. Je pense pas qu'il ait vraiment trempé dans l'écriture du scénario. Surtout quand on voit la pathétique dernière scène qui cristallise absolument tous les défauts du film. Que ce soit le montage, le jeu des acteurs, c'est une catastrophe. Autant le reste, ça peut passer, mais la dernière scène, ça vient complètement plomber. Donc ça clôture malheureusement un film qui aurait pu être pas mal et qui manque énormément de souffle.
Bon, alors vous n'irez pas forcément le voir. En tout cas, ça passe encore dans les cinémas.
Cinérama.
Je vous demande une seconde, le temps d'installer le prochain film.
Et on termine avec un documentaire, Il était une forêt, de Luc Jacquet. Alors, de la première pousse à l'épanouissement des arbres géants, de la canopée en passant par le développement des liens cachés entre plantes et animaux, le temps s'écoule. Et Luc Jacquet, à qui l'on doit La Marche de l'Empereur, a rencontré le botaniste Francis Allais. Et ils ont décidé de faire un film qui raconte ce qu'est une forêt primaire. Image HD de très bonne qualité, explication des processus à l'œuvre dans une forêt, quelques envolées poétiques. Il était une forêt nous plonge dans un monde méconnu, toujours menacé par l'homme. On écoute une interview de Luc Jacquet et de Francis Allais.
Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques.
Francis m'a donné envie de raconter ça. Vous n'ignorez pas qu'il est spécialiste de l'architecture des arbres, c'est quelqu'un qui a vu pousser les arbres toute sa vie. Et moi, finalement, j'ai essayé d'être le médiateur entre ce que Francis voit, ce qu'il ressent, et le grand public, et ce que moi je ressentais en l'écoutant. Voilà, c'était ça pour moi le plus grand défi du film, je crois. Ce film, c'est ce que moi j'ai entendu de Francis Allais. C'est pas Francis Allais, c'est pas une interview, vous l'avez... Ce film est un film, c'est un point de vue qui est assumé, c'est un point de vue d'auteur, de réalisateur, avec les contraintes qui sont les contraintes du cinéma, c'est-à-dire que le langage du cinéma n'est pas le langage de la science. Je pense, j'espère avoir été fidèle à ce que j'ai entendu de Francis, mais je voulais le dire avec les mots à moi, et surtout dans cette contrainte, qui est comment je fais passer l'émotion, comment j'arrive en peu de choses à faire passer une information qui prendrait peut-être 4 phrases dans un langage scientifique. Voilà, pour moi c'est du cinéma, et c'est assumé du début jusqu'à la fin. Mais, encore une fois, en m'étant imprégné, pendant des mois, encore une fois, du langage de Francis, qui est effectivement un nul autre pareil. Ce point de vue sur les arbres, je ne pense pas l'avoir rencontré chez d'autres auteurs, chez d'autres botanistes.
Il y a dans chaque graine la promesse d'un géant. Mais il va lui falloir des siècles pour rejoindre le ciel. On les croit immobiles, mais les arbres sont de si grands voyageurs qu'ils traversent même les océans.
Moi, je suis allé sur les effets spéciaux et sur le dessin parce que Francis. Je vous laisse voir sa bibliographie. Il y a vraiment, je trouve, dans ce dessin-là, à la fois l'observation scientifique, mais beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que moi, je sens l'émotion, je sens l'art dans le dessin de Francis. Et je me suis dit, mais finalement, c'est une manière... tout ce qu'on voit là, c'est une vue de l'esprit, parce que nul n'est resté 700 ans devant un arbre. Donc, assumons le fait que c'est une vue de l'esprit, assumons le fait que c'est aussi un plaisir. Je me plais à penser que ces arbres sont sublimement beaux quand ils se développent, et malheureusement, je ne le verrai jamais. Donc, c'était une manière de l'assumer, plutôt que le cacher avec des effets naturalistes qui allaient rentrer en concurrence, finalement, avec la nature elle-même, ce qui était extrêmement risqué. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité que Francis soit à l'image. Ce qui était aussi pour lui un défi, il vous en parlera, hein. Mais parce qu'il y avait une manière de regarder, une manière d'être, une manière de représenter, qui était directement issue des 50 ans de travail botanique passé par Francis à observer les arbres et à les comprendre.
On les croit silencieux, mais ce sont de si grands séducteurs qu'ils sont même capables de charmer les nuages. Mais dans leur course effrénée vers la lumière, ils peuvent devenir des guerriers féroces, capable de faire chuter les plus grands.
Ce qui m'a beaucoup touché dans la forêt, c'est cette notion d'imbrication du monde. On est dans un foisonnement qui nous dépasse, intellectuellement qui nous dépasse. Tellement, chaque particule de forêt est déjà un monde en soi. Et plus vous allez aller vers l'infiniment petit, plus vous allez rencontrer de monde, et c'est exactement la même chose quand vous partez vers le haut. Et l'idée, c'était d'arriver à retranscrire ça au cinéma, avec les outils dont on dispose, pour que les gens aient, je ne veux pas dire aient compris, mais au moins aient un aperçu de ça, parce que c'est vrai que cette sensation d'infini vivant, d'infini de biodiversité, de toute forme que vous puissiez imaginer, c'est quelque chose qui est saisissant en forêt. Moi, c'est quelque chose que je n'imaginais pas. Et vous citez La Marche de l'Empereur, mais ces deux films sont diamétralement opposés, en tout. En Antarctique, l'empereur est le dernier, vraiment, est à la limite du vivant. Au-delà de l'endroit où il vit, il n'y a plus rien. L'empereur vit dans un paysage qui est absolument ouvert, extraordinairement lumineux, extraordinairement froid, etc. La forêt, c'en est impressionnant, je découvre presque ça avec vous. On pourrait cultiver les contraires comme ça, quasiment sur tous les points.
J'ai passé tant d'années en forêt, une pleine vie d'homme. Penser au temps des arbres me donne le vertige. Comment perçoit-on le monde quand on vit si longtemps? J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris, mais je n'ai fait qu'effleurer les mystères de cet univers. Ici, je ressens...
Il était une forêt donc de Luc Jacquet, sort aujourd'hui, et allez le voir plutôt sur un grand écran parce que ce sont de belles images.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Le jeudi 14 novembre, c'est demain à 20h, l'avant-première de Afrique 50 de René Vautier, de Sable et de Sang de Michel Letomas, au Diagonale. Ce dimanche à l'Utopia, il y aura la projection unique de RAS Nucléaire, rien à déclarer. Ce sera suivi d'une rencontre avec Sortir du Nucléaire. Au Nestor Burma, il y aura un cinéma différence à 16h avec la projection du dernier opus de la réalisatrice québécoise Louise Archimbault. Le film s'appelle Gabriel. Le lundi 18, c'est le Ciné Campus avec Murmure, documentaire d'Agnès Varda. Ce sera à l'Utopia. Et puis le mardi 19 à l'Utopia encore, une séance unique avec Broken Hopes, Oslo's Legacy. Ce sera à 20h30, il sera question de la Palestine et il y aura une discussion en suivant.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
vas-y, Marine.
À suivre.
T'as quelque chose d'important à dire.
C'était juste pour signaler qu'à suivre, l'émission 24 notes secondes sera consacrée au célèbre et talentueux Maurice Jaubertit.
Ouais.
très célèbre.
C'est un grand moment.
On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Bruno et à...
À François.
À François, à la technique.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.